17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui, Rose-Marie Antoine. Bonjour Rose-Marie.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez été directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Vous avez été aussi sous-directrice à l'action culturelle et éducative et dans une autre vie, déléguée générale de la Fondation France Liberté, de la regrettée Danielle Mitterrand, de la formidable et la merveilleuse Danielle Mitterrand. Vous êtes une femme engagée dans votre vie et vous êtes aujourd'hui engagée dans un programme à quatre voix. C'est un programme qui veut se faire réconcilier les mémoires de la guerre d'Algérie, à savoir les enfants de rapatriés, de pieds noirs, enfin peu importe comment, il y a un terme un peu générique qui englobe le tout, les harkis, enfants de harkis, aussi ceux qui sont morts pour l'indépendance, les gens du FLN, et puis aussi tous ces appelés, presque 1,5 million de jeunes Français qui sont partis faire la guerre en Algérie, et donc toutes ces mémoires qui sont a priori difficilement réconciliable, pour reprendre les termes du président de la République Emmanuel Macron, qui portent chacune une portée singulière chacune. Vous avez voulu lancer un programme à quatre voix et vous allez nous expliquer pourquoi ce programme. Il y a eu tout récemment, le 19 mars, la commémoration des accords d'Évian du 19 mars 62. Vous en étiez et vous avez fait une intervention donc à côté d'autres témoins. Et moi, j'ai été surpris parce que quand vous avez fait cette intervention, en fermant les yeux, moi, j'écoutais une Algérienne. Donc, j'écoutais quelqu'un qui était attaché à un pays qui s'appelait l'Algérie, qui parlait de son pays, l'Algérie, et vous auriez pu vous appeler Jamila ou Yasmina, et moi j'aurais entendu la même chose. J'étais vraiment frappé par la tonalité du discours, par la teneur émotionnelle. L'Algérie, c'est votre pays. Vous êtes né en 1952 d'ailleurs, je crois, à Sidi Bel Abbès.
Oui, je suis née en 1952 à Sidi Bel Abbès. Je ne dirais pas que l'Algérie est mon pays, mais l'Algérie est mon enfance. Et l'Algérie était le pays de mes ancêtres, de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents, qui, comme je le soulignais lors de ce témoignage, ont quitté leur terre d'Andalousie, essentiellement chassés par la misère qui y régnait. Et donc, ils sont venus tous ensemble. C'était tout un petit village qui est arrivé en Afrique du Nord et en Algérie pour y travailler. Et donc, effectivement, j'y ai passé ma jeunesse. Mes parents en parlaient avec énormément d'affection lorsqu'on était en Algérie. Mais en réalité, on a compris très vite que nous étions une erreur de l'histoire. Et c'était une souffrance chez mon père, qui était un homme de gauche, qui était un ouvrier. On vivait dans un quartier populaire. Et donc, on voyait bien qu'autour de nous, il y avait des Algériens musulmans avec qui nous étions proches du fait de l'engagement de mon père. Mais on voyait bien que nous étions, nous nous considérions comme pauvres, mais il y avait des plus pauvres que nous. Effectivement, j'ai puisé mon engagement dans cette histoire. À l'école, nous étions tous ensemble. J'avais des camarades qui étaient effectivement des Algériennes musulmanes. Il se fait que moi, j'étais une Algérienne catholique par le hasard. Mais en réalité, nous, on était ensemble. Et j'ai parlé de ce déchirement de la guerre d'Algérie. La fin de mon enfance a été terrible. J'avais 10 ans et il a fallu absolument tout quitter. Et surtout, de prendre conscience que ceux qui étaient nos amis, nos voisins, pouvaient être nos ennemis, pouvaient tirer sur nous sans... pas eux directement, mais leur famille, parce que on a compris qu'on était du mauvais côté.
Alors on va parler de nos ennemis, enfin nos amis, nos voisins qui deviennent nos ennemis, etc. On va parler dans un instant, mais pourquoi considérer que quelqu'un qui est d'origine turque, la Turquie a colonisé l'Algérie pendant 4 siècles et demi, on rencontre de nombreuses personnes qui disent je m'appelle Mehmet, je m'appelle Jamila, je m'appelle Youssef et je suis fier et je suis d'origine, je suis algérien, je suis d'origine turque. Donc, on connaît les Kouloglis, hein, les mariages mixtes entre les gens d'origine turque et les locaux. Pourquoi cette personne serait fière d'être algérienne, même si elle est d'origine turque ou autre? Et pourquoi vous, qui êtes là depuis 2, 3, 4 générations, qui êtes né en Algérie, pourquoi vous ne seriez pas algérienne? Pourquoi qu'est-ce qui fait que vous dites on se sentait du mauvais côté, on se sentait qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire?
Parce qu'on nous disait vous êtes en France et on apprenait à l'école nous ici en France nos ancêtres nos Gaulois et on nous disait qu'on était français. Or à la maison, on parlait espagnol. À l'école, on parlait en français. Et dehors, on parlait arabe. Mon père parlait arabe. Donc, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, que je ne savais pas qui j'étais, où j'étais. Et effectivement, quand j'ai parlé à mes enfants et mes petits-enfants de l'Algérie, mes enfants pensaient que j'étais algérienne. Mais c'est cette histoire, et je le suis par le cœur. Puisque quand vous dites... bien sûr, je suis comme Jamila, comme Khaira, ma copine, mes copines qui sont dans mon cœur. Mais bien sûr que pour moi, je suis à la fois algérienne et française. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on n'aurait pas dû être là-bas. On n'aurait pas dû, ou alors on aurait dû y rester, ce que c'était le rêve de mon père, et rêver tous ensemble d'une vie ensemble dans une Algérie qu'on aurait construite ensemble.
Alors, comment ça se passait? C'était deux communautés qui se côtoyaient, qui ne se parlaient pas, c'est ça? C'était, vous aviez votre écosystème à vous
non,
et...
Il y avait plusieurs communautés. D'abord, il y avait surtout ceux qu'on ne voyait pas, qui étaient riches et qui possédaient la majeure partie des terres, les colons, et que nous voyions même pas de très loin. On voyait leurs grandes demeures.
Les Burgeaux et compagnie.
Voilà, et moi, j'étais dans une ville où c'était les Descrillons, ailleurs c'était les Dietrich, c'était les de quelque chose.
Et alors, c'était des gens, moi j'ai eu l'occasion, quand j'étais enfant, enfin ado, de visiter une des propriétés après l'indépendance, bien sûr, du domaine Burgeaux. C'était des gens qui étaient maîtres de leur domaine.
Absolument.
Ils avaient même frappé une monnaie. Absolument. Moi, je me rappelle, on nous a montré cette monnaie. C'était carrément des gens qui avaient pouvoir incroyable. Et ils avaient confisqué comme ça des terres. Ils étaient patrons de leur... Exactement. C'était vraiment des grands colons, voilà. Pour pas dire des esclavagistes.
Et ils étaient des colons et des patrons à la fois de tous ceux qui travaillaient chez eux. Et mon grand-père était ouvrier agricole. Donc, il était avec tout le monde. Mes grands-mères, elles étaient servantes dans ces grandes familles et elles nous disaient la richesse qu'elles voyaient, mais elles nous disaient aussi toutes ces injustices, cet apartheid, on peut le dire, qui existait. Alors oui, on vivait ensemble, nous, les petits blancs, avec les musulmans, algériens musulmans, je fais bien une différence, mais en même temps, même parmi les pieds noirs, il y avait des gens qui se comportaient pas toujours très bien, il faut bien le dire. Il y avait des personnes qui se comportaient correctement et d'autres qui se sentaient un peu supérieures. Donc, si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette injustice, cet apartheid, cette façon de vivre où on est pauvre, mais on trouve plus pauvre que nous et qu'en plus, on se sent supérieur, c'est terrible. Je veux dire, ça vous fracasse une vie d'enfant qui n'a plus le sens de la justice. Et quand j'ai dit, sur le mur de nos écoles, nous avions liberté, égalité, fraternité, notre devise inscrite, eh bien, elle n'était pas en Algérie appliquée. Et c'est cela qui était absolument injuste. Nous pouvions être des frères, mais on ne pouvait pas se marier ensemble. Il y avait une espèce d'interdiction, ou alors on sortait de notre clan. Donc, si vous voulez, c'était une vie impossible, parce que le racisme, l'inégalité, l'injustice a fait gangréner ce pays. Et c'est ce qui a fait, malheureusement, que nous n'avons pas pu rester ensemble. Et c'est ce qui a été exploité par ces grands colons qui y ont trouvé absolument tout leur intérêt, alors que nous, on y a tout perdu.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Toujours avec Rosemarie Antoine. Vous parlez à l'instant de la France. Vous disiez, on était français, etc. Je voudrais que vous écoutiez ça. Quand mon grand-père parlait de la France, il disait notre patrie. et acceptait d'avance les sacrifices que cette patrie pouvait demander. « Ton père est mort pour la patrie », disait-il à Jacques. Alors que cette notion de patrie était vide de sens pour Jacques, qui savait qu'il était français, que cela entraînait un certain nombre de devoirs, mais pour qui la France était une absente, dont on se réclamait et qui vous réclamait parfois. Mais un peu comme le faisait ce Dieu, dont il avait entendu parler, hors de chez lui et qui apparemment était le dispensateur souverain des biens et des maux, sur qui on ne pouvait influer mais qui pouvait tout, au contraire, sur la destinée des hommes. Et Jacques demande à sa mère, « Maman, qu'est-ce que la patrie ?» avait dit un jour. Elle avait eu l'air effrayée, comme chaque fois qu'elle ne comprenait pas. « Je ne sais pas, avait-il dit. Non, c'est la France. Ah oui, c'est la France. » Est-ce que vous savez de quoi c'est tiré ?
Mais je pense que c'est Camus.
C'est Camus, le premier homme.
C'est sûr.
Et là, on retrouve... Mmh. On sait, c'est Camus, pied noir, algérien, et en fait, il a jamais vu la France, et sa mère ne sait même pas ce que la France, et c'est terrible.
Et c'est exactement ce que j'essayais de vous dire. C'est moi, ma vie, mon histoire, c'est la même histoire que celle d'Albert Camus, qui malheureusement n'a pas été là, n'a pas pu nous aider. Il est mort trop tôt.
Il est mort trop tôt. Et en même temps, Camus. Rarement quelqu'un aura décrit l'Algérie à Alger comme il l'a décrit, mais il ne parlait jamais des Algériens. Et dans ses livres, Camus, quand il parle des Algériens, il dit l'arabe. C'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, Camus aime l'Algérie, il est algérien, il côtoie l'Algérie de tous les jours, Alger de tous les jours, il le décrit, Belcourt, Bab-el-Oued, la plage, bon, il va en Kabylie où il décrit la misère des villages kabyles. Mais en même temps, quand il parle des Algériens, il les connaît pas. C'est comme ça. C'était ça la vie entre ce qu'on appelle les pieds noirs et puis ce qu'on appelle les indigènes, c'est ça?
Oui, les pieds noirs parlaient des Arabes ou des indigènes, effectivement. Et nous, quand on parlait de nous, on disait les Européens, les Roumis, je me souviens. Et effectivement, en fait, on ne connaissait pas notre histoire. Les uns et les autres ne connaissaient pas notre histoire. Mais on était en permanence abreuvés d'informations concernant la France qu'on ne connaissait pas. On nous en faisait un descriptif. C'était tout vert, c'était tout beau. Il y avait des belles montagnes. Mais imaginez qu'à l'école, par exemple, on ne nous parlait pas du tout de ce qui nous entourait. Qu'un jour, la maîtresse a dit « Qu'est-ce que l'Atlas ?» Moi, j'ai dit « on avait un petit chien qu'on avait appelé Atlas. » Donc, c'est vous dire le décalage. C'est que je ne savais rien de ce qui se passait autour de moi. Comme je ne savais rien de ce qui se passait dans... On vivait ensemble des croyances. On voyait qu'il y avait des mosquées, qu'il y avait des églises. Une anecdote, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui voulait... Elle était trop impotente à la fin de sa vie. Vous voulez aller prier ? L'église était trop loin, elle a demandé à mon oncle de l'emmener à la mosquée. Elle y est rentrée, elle s'est agenouillée, elle a fait son signe de croix, et les Arabes étaient tous là, comme vous dites, et ils l'ont laissé faire parce que ils avaient beaucoup de respect pour elle, et quand elle est morte, ils sont venus embrasser son cercueil à l'église. Donc, si vous voulez, nous, on savait qu'on était proches les uns des autres, mais tout était fait pour nous diviser, absolument tout. Mais on ne voulait pas voir arriver cet inéluctable arrachement. Et puis, lorsque on a dû quitter notre terre, où il s'est passé des choses horribles des deux côtés des deux camps, faut pas enjoliver. Moi, j'ai assisté à un assassinat de mes amis, lapidés à mort devant chez nous, parce qu'il passait devant un cimetière musulman, et ceux-ci venaient d'enterrer l'un des leurs qui avait été assassiné par la France, probablement par des hommes en armes. Et donc, par réaction, ils ont pris cet enfant, ils l'ont lapidé, il est mort pour rien, il est mort bêtement. Et donc, des morts, il y en a eu des deux côtés.
Tout ce qui s'est passé, c'est comment dire, ce sont des enfants de la violence, d'une violence qui a commencé en 1830, parce que on parle de la guerre d'Algérie, mais en fait, la guerre d'Algérie a duré de 1830 à 1962. On vous a caché que il y avait tout le temps des révoltes, des guerres depuis 1830. Je veux dire, ce qu'on appelait les indigènes se soulevaient, se battaient. On a parlé d'Emir Abdel Kader, de Fadman Soumer, de Sheikh Haddad, de Sheikh El Mokrani, et puis j'en passe et des meilleurs. Donc ce pays était sans arrêt en révolte contre l'occupation, et d'ailleurs comme il l'a été aussi contre l'occupation turque, il y a eu aussi des révoltes, et ça on vous l'a caché. Et on a confisqué presque 7 millions d'hectares de terre. C'est-à-dire que lorsqu'on confisque à un individu ou à un peuple sa terre et qu'on lui empêche d'enseigner sa langue, on lui prend tout. Et donc ça, on vous l'a caché. Et donc, et voilà, effectivement, vous avez raison. On vous a menti.
Exactement. Et quand mon grand-père s'en est rendu compte, quand lui, il s'en est rendu compte très rapidement, il était ouvrier avec les autres, il ramassait l'alpha comme tous ses camarades. Et il avait dit, ce pays n'est pas notre pays. Ce pays n'est pas le nôtre, il faut que vous en ayez conscience. Et nous, on ne comprenait pas, parce que tout le combat après des pieds noirs, c'était Algérie française. Donc, effectivement, nous, on venait d'Espagne, mais je vous dis, chassés par la misère. Mais, effectivement, on a toujours eu l'impression qu'on nous cachait quelque chose. Imaginez, à l'école, tout ce qu'on nous disait, ça ne concernait rien de ce qui était dans notre environnement. Donc, on a eu l'impression d'être les jouets de l'histoire, d'avoir été utilisé par des politiques qu'on ne comprenait pas, qui étaient bien au-delà de nous. Et puis, je pense qu'il n'y avait pas d'information. Imaginez un pays, moi je me souviens, quand on était petit, on n'avait pas la radio, on l'a eu beaucoup plus tard. Évidemment, pas de télévision, pas d'information, pas de livres. On n'avait rien. Mon père s'informait par son syndicat, et puis nous, par l'école. Donc, nous étions dans une situation complètement cloisonnée, enfermée, sans comprendre. Et c'est cet isolement, cette incompréhension qui a généré énormément de souffrance.
Alors, et donc, depuis quelque temps, on parlait de façon historique depuis l'indépendance des événements d'Algérie. Avec Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre, on s'est mis à parler de guerre d'Algérie. Et puis, les choses ont un peu évolué. Et depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, on a aujourd'hui la guerre d'Algérie qui a fait l'objet d'un rapport de Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie, sur des préconisations pour réconcilier les mémoires. Et beaucoup de gens milite pour des mémoires réconciliées, des mémoires apaisées et partagées. Comment pensez-vous qu'on puisse partager des mémoires et réconcilier des mémoires qui sont tellement à vif? Vous, votre mémoire, elle vous appartient, c'est la vôtre, elle est légitime, personne ne peut vous juger, personne n'a rien à dire, mais la mémoire de d'un militant FLN ou de sa femme ou de ses enfants qui ont subi l'esclavage, l'oppression, la confiscation des terres, etc., qui s'est révolté, il a aussi sa mémoire, la mémoire d'un jeune appelé du contingent, hein, il est parti, il pensait aller chez les scouts, aller un peu au bord de la mer ou au le soleil, il s'est retrouvé à tirer sur des hommes et à tuer des hommes, et puis donc à faire la torture parfois. Comment on peut réconcilier on peut pas réconcilier ces mémoires.
Non, le terme de réconciliation pour le moment, en tous les cas, et elles sont irréconciliables parce qu'elles sont uniques, elles sont particulières, mais on peut dire que cette guerre a généré une multitude de mémoires blessées. Cette blessure, nous l'avons en nous. Et nous n'avons pas pu en parler, ni les uns ni les autres. Parce qu'en France, on disait que c'était pas une guerre, c'était des événements. Lorsque j'avais 18 ans et que je me suis engagée, parce que toute ma vie a été un engagement, dans l'humanitaire d'abord et puis après dans la fonction publique, eh bien je n'osais pas dire que je venais d'Algérie, je n'osais pas dire que j'étais pied noir parce que j'avais presque honte de ce qui était arrivé, parce que je regardais l'histoire depuis la France où j'étais informée, où j'étais éduquée d'une autre façon. Et effectivement, on a soufflé quand on nous a dit C'était une guerre. Ces non-dits, c'était insupportable. Et à partir de là, on a commencé, nous, de la deuxième génération, à en parler. Mais mon père est mort dans le silence total. Donc, non, effectivement, ces mémoires ne sont pas réconciliables. Mais il est de notre devoir de parler de ce que nous avons vécu tous ensemble, les uns et les autres, quel que soit le vecteur, pour enseigner aux enfants, nos petits-enfants, ce qu'est une guerre, comment se déclenche une guerre, comment on arrive à détester celui qui était notre ami d'hier, celui avec qui on aurait pu construire. On n'a pas pu, c'est un échec. Alors au moins, pour nos enfants, nos petits-enfants, sans nous réconcilier, transmettons nos mémoires blessées pour construire ensemble un avenir meilleur. Et en espérant, franchement, que la France et l'Algérie, un jour, sans se réconcilier, je ne dis bien par rapport à cette histoire, fassent ce travail de mémoire et d'histoire avec des historiens pour passer à autre chose, à une construction de liens nouveaux.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Toujours avec Rosemarie Antoine, on est en pleine mémoire. La force d'une nation, dit Emmanuel Macron, c'est une fraternité malgré les silences, malgré les impossibles. Le jour du 19 mars, il y avait eu 4 histoires françaises. Et Emmanuel Macron disait « les bruits, les émotions sont les mêmes ». Vous, Rosemarie Antoine, vous avez initié ce programme « Quatre voix ». Comment c'est venu et quel est l'objectif ?
En fait, à l'issue de ma carrière, en 2013, j'ai été nommée directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Et donc, j'ai été en contact avec les anciens combattants qui avaient vécu cette guerre d'Algérie. J'ai beaucoup travaillé avec les déportés, avec les résistants. J'ai travaillé sur toutes les guerres. Mais là, j'ai compris qu'il y avait un véritable problème entre eux. Ils n'étaient pas d'accord sur la date du 19 mars, mais c'était quelque chose d'incroyable. Ils étaient en désaccord total et c'était dramatique parce qu'on ne pouvait avancer sur aucun sujet. Et puis, en 2016, j'ai eu la responsabilité aussi des rapatriés, de la mémoire des rapatriés, de toute l'indemnisation, enfin, la fin de l'indemnisation. Donc, je me suis retrouvée, et puis aussi des victimes de guerre et d'attentats terroristes. Autant vous dire que j'étais en contact avec tous ceux qui avaient été frappés par la guerre et qui, chacun avait une histoire différente, douloureuse, en tous les cas, très douloureuse. Et effectivement, la première fois que j'ai rencontré des associations de pieds noirs, c'était horrible. Enfin, ils m'ont dit, heureusement, vous êtes pieds noirs, vous allez nous aider. Mais j'ai compris qu'en fait, ils souhaitaient qu'on continue de rester dans ces blocages. Et les gouvernements précédents avaient reconnu beaucoup de choses, pas assez à mon avis. Emmanuel Macron a fait beaucoup plus de reconnaissance. Mais en tous les cas, la mémoire des pieds noirs, elle était... Elle a été récupérée, ça on le sait, par les partis extrêmes, très récupérée. Et elle est encore avec un plus grand élan encore. Mais bon, il fallait pour moi que je construise quelque chose avec tout cela. Et j'ai eu l'idée, et c'est mon expérience, de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale. J'ai d'abord rencontré Benjamin Storin en lui parlant de ses mémoires. Il m'a dit oui, c'est une bonne approche, pourquoi pas. J'ai vu l'Éducation nationale, ils m'ont dit pourquoi pas essayer. Et j'ai commencé à travailler avec Emmanuel Branche, qui est une grande historienne, Abderrahmane Moumen.
Raphaël Branche,
Abderrahmane Moumen, et puis. Un autre historien qui, lui, travaille plus l'histoire des rapatriés. Et ensemble, ils m'ont proposé d'abord de faire une exposition. Parce qu'on ne peut pas parler des mémoires comme ça, en vrac, devant des lycéens, si on ne leur plante pas le décor, si je peux dire, la scène historique. Donc ils ont travaillé sur cette histoire qui commence à la colonisation et qui ne commence pas en 54, ce qu'on a tendance à faire, et qui s'est poursuivi quelquefois même au-delà de 62, je ne parle pas de la période Perrin, mais au-delà de 62 avec les histoires du Sahara. Donc, si vous voulez, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et comme je les connaissais tous, et que je les connais encore, je me suis dit, je vais leur proposer. Ça a été terrible. Au départ, ils ne voulaient pas. Personne ne voulait parler à côté de celui qui avait une autre mémoire. Et progressivement, on a essayé. Et je pense que ce sont les élèves qui nous ont réconciliés. La première fois, j'ai témoigné, moi, après que je sois partie de ma fonction, j'ai témoigné à Asnières. Et c'était d'abord, c'est terrible, le silence, l'écoute de ces enfants. En recherche de vérité, de savoir. Et je témoignais après un membre du FLN, il y avait un harki et il y avait également un appelé du contingent. Et là, effectivement, on a été très étonnés de l'accueil. Ils nous ont demandé si on n'avait pas de haine entre nous. Ben non, puisqu'on témoignait. Et cela nous a éminemment rapprochés, et ce que l'on croyait être impensable, je ne vous dis pas que nos ministres, les premiers, ont été ravis de savoir que j'allais m'engager. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible, enfin, vous allez créer des problèmes. Et en réalité, ça a très très bien marché. Donc, exposition, préparation par les professeurs des élèves, vous allez rencontrer des témoins, ils vous parleront de leur mémoire, seulement la leur, et on en parlera ensuite plus tard entre nous en cours. C'est ce que l'on fait, donc c'est un programme qui est maintenant inscrit dans la programmation officielle d'éducation nationale, et cela marche. Il nous faut des témoins. Il nous faut des témoins avant qu'ils ne meurent tous. J'avais 10 ans, j'en ai 70, et j'ai remarqué une chose, ça c'est très important, que 60 ans après, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi ? Parce que les enfants n'ont pas forcément été à l'écoute. En tous les cas, quand on sort d'une affaire, d'une douleur pareille, on ne parle pas tout de suite. J'avais remarqué avec les déportés. Les déportés ne parlaient pas, ils ont commencé véritablement à parler lorsque Le Pen a parlé que c'était comment il avait dit ça, un petit épisode de l'histoire. Et les déportés ont dit, on ne peut pas mourir sans graver notre parole, parce que nous l'avons vécu. Et je me souviens avoir beaucoup, beaucoup travaillé avec eux. Et donc, 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, on se dit, c'est peut-être le moment. Et j'ai senti cette impérieuse nécessité de le faire pour tous, et je me suis rendu compte que moi, ça m'a fait du bien aussi. Donc chacun a le droit de dire sa mémoire. Maintenant, ce qui serait très souhaitable, c'est de le faire aussi en Algérie, avec vos amis algériens.
Alors, vous avez eu, dans les missions de l'Office, reconnaissance et réparation, solidarité et mémoire, et vous dites qu'il faut aussi des lieux de mémoire. Comment construire ces lieux de mémoire, parce que ce qui est sacrifice pour l'un est violence pour l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sacrifie, le même geste peut être vécu comme une violence par l'autre. Comment concilier ça?
Mais il faut tous les lieux de mémoire. Il faut, je veux dire, autant la Seine est un lieu de mémoire en octobre, parce que les gens ne s'y trompent pas. Donc il faut effectivement marquer ce lieu. Charonne est un lieu de mémoire très
important. Du
17 octobre 61. Vous vous souvenez, j'avais travaillé là-dessus quand j'étais à la Fondation. Et puis, à l'époque, les autres n'en parlaient pas beaucoup. Hein. Mais chacun a son lieu de mémoire. Par exemple, les harkis ont leur lieu de mémoire. Ce sont les camps dans lesquels ils ont été. Et ils veulent qu'on parle de leur mémoire. Eux, ils ont une mémoire terrible, terrible, terrible. Ça, j'ai compris à quel point elle était fracassante et qu'elle vous détruisait.
Alors, les harkis ont une mémoire terrible par rapport à... parce qu'ils sont considérés comme des collabos. Oui. Hein, mais leurs enfants, c'est encore plus terrible. Oui. Parce que eux, ils sont... Ils ont les mêmes problèmes que les Algériens. Ce sont des Algériens, des enfants d'Algériens, et ils ont les mêmes revendications. Donc c'est encore pire.
Parce que vous savez, on a toujours dit que les harkis avaient choisi la France. Et moi, j'ai souvent...
Ça n'a pas toujours été le cas. Hein.
Ça n'a pas été le cas. C'est souvent la France qui les a choisis, alors qu'ils étaient dans des conditions difficiles. C'était souvent pour manger, pour s'habiller, pour fuir aussi la misère quelque part, et sans leur dire ce qu'ils allaient faire, ce dont ils allaient se sentir coupables, même s'ils ne l'étaient pas. C'est la France qui était coupable à travers leurs mains. Et donc, effectivement, quand ils ont réalisé tout cela, je vous dis, c'est une histoire d'humiliation. Comme je vous parlais de mon père humilié, homme de gauche, qui a vu ce qui se passait en Algérie, cette inégalité, c'était pas possible pour lui. Eh bien, les Harkis, c'était pareil. Ils ont été humiliés. Ils ont été humiliés par la France. Cette humiliation mérite effectivement une reconnaissance de leur histoire et une réparation.
Alors, Rosemarie et Antoine, on arrive à la fin de l'émission. Une question. Est-ce qu'il y a vraiment un roman français? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une lubie? Et comment construire de façon fluide et uniforme un roman français? Toutes ces mémoires éclatées, singulières, qui vont dans tous les sens, est-ce qu'on peut construire un roman français autour de quelque chose qui est tentaculaire? Est-ce que vous y croyez? Et j'ai vu que aussi dans vos discours, vous défendiez l'idée d'une citoyenneté affirmée des jeunes à travers cette mémoire, pour terminer l'émission.
Absolument. Moi, je crois beaucoup au récit national. Et le récit, c'est notre histoire à toutes, tous mêlés, qui s'entremêlent et qui fait la République. La République, aujourd'hui, en France, elle est multicolore, elle est multiraciale. C'est ce qui fait sa force. Et donc, oui, il faut effectivement parler ensemble et que chacune de nos voix construit la France. Nous sommes la France, tous. Et donc, c'est très important de parler de ce récit national, même si, effectivement, à des moments, nous avons été séparés. Mais qu'est-ce qui fait la force d'un pays? C'est son union. C'est ça. C'est l'union qui fait la force, l'union de nos douleurs. On a pu se réconcilier avec les Allemands, on a pu se réconcilier avec nos adversaires d'hier. Aujourd'hui, il faut qu'on se réconcilie, tout en reconnaissant la part de responsabilité des uns et des nôtres. Et la France a une forte responsabilité, mais je crois que Emmanuel Macron l'a compris et il essaye par petits gestes mémoriels, mais ce n'est pas fini. Nous sommes actuellement sur le chemin des gestes mémoriels, mais c'est surtout à l'école qu'on construit le récit national.
Et ce qui fait peut-être aussi la force de la France, c'est que c'est un État, une nation et une République. Et souvent, la République prend le pas sur tout et arrive à réconcilier les gens autour d'elle, autour de ses valeurs.
Et ce qui est important, c'est que chaque enfant français, d'où qu'il vienne, et particulièrement d'Algérie, il est en France, il est français, fait partie de la République. Et il doit être fier de cela.
Merci Rosemarie Antoine.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.